BPM, élections législatives 2024.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 7 juillet. Pour cette occasion, BPM vous propose aujourd'hui des émissions spéciales où nous recevons les deux candidats sur la 5e circonscription de l'Eure. Nous avons déjà reçu tout à l'heure Frédéric Duché. Nous recevons maintenant Timothée Houssin, député sortant et candidat donc pour le Rassemblement National sur cette 5e circonscription de l'Eure. Timothée Houssin, bonjour.
Bonjour.
Alors on va faire comme la semaine dernière, petit rappel, petite présentation, vous avez 35 ans, vous êtes conseiller régional en Normandie et député sortant de la 5e circonscription de l'Eure. Vous êtes ressorti en tête du premier tour de ces élections législatives 2024 et votre suppléant se nomme Dylan Covin. Alors pendant cette émission, nous allons évidemment passer en revue votre projet pour la circonscription, vos propositions et vos priorités pour les prochaines années. Tout d'abord, revenons sur les résultats du premier tour. Donc, dans cette circonscription, Timothée Houssin, vous êtes ressorti en tête avec 45,26% des voix, suivi de Frédéric Duché pour Horizon avec 24,39%. Pierre-Yves Jourdain pour le Nouveau Front Populaire, qui était initialement qualifié pour ce second tour, avait récolté, lui, 21,28% des voix. Mais depuis, il a décidé de se désister pour laisser place à un duel. Tout d'abord, vous, quelle a été votre réaction suite à l'annonce des résultats? 45%, vous vous y attendiez?
Bah écoutez, une réaction plutôt positive, au sens où nous arrivons quand même nettement en tête de ces élections législatives. Je pense que ça démontre que, c'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre de mes collègues députés sortants, certains sont même passés au premier tour, ça démontre que là où les électeurs ont adopté le Front, là où ils ont essayé le Front National, le Rassemblement National, finalement, ils l'ont adopté. 45% pour nous, c'est un bon score, cependant la victoire est encore dans 5 points. Il faut absolument aussi que nos électeurs se mobilisent, il ne faut pas oublier qu'il y a un second tour ce dimanche et qu'il s'agit pour nous de l'emporter, et donc à la fois que nos électeurs de premier tour retournent se mobiliser, et puis nous avons face à nous Frédéric Duché qui est le candidat de la Macronie. Nous pensons que une majorité de Français et une majorité des habitants de notre circonscription souhaitent tourner la page de la Macronie, et donc nous les invitons tous, quel que soit leur choix de premier tour, à venir voter aussi pour nous.
En tout cas, sur ce premier tour, il y a une forte mobilisation. 26 600 personnes qui ont voté pour vous. C'est quand même un gros chiffre.
C'est une élection extrêmement importante pour l'avenir de notre pays. Moi, je me réjouis de la forte participation au-delà de mon score, que les Français et les habitants de la circonscription s'intéressent à nouveau à la politique. Je pense que ça porte aussi un message d'espoir, c'est-à-dire que les gens s'aperçoivent que en allant voter, les choses peuvent changer. Ils peuvent avoir des élus qui vont être influents à l'Assemblée nationale. Nous, on a eu un rôle d'opposition constructive pendant les deux années de notre premier mandat. Nous voulons maintenant avoir une majorité pour changer les choses.
Vous l'avez dit, sur la circonscription, et ça se retranscrit partout en France, on a connu un assez fort taux de participation, 67% ici. Vous espérez la même chose dimanche, voire mieux?
Oui, on pense que... Alors, on va être en période de vacances scolaires, ça va peut-être avoir une petite influence, mais on pense que les gens vont retourner voter, puisqu'ils s'intéressent beaucoup à cette élection. Et c'est l'occasion pour eux de construire avec nous une nouvelle majorité et de redresser ce pays. Nous pensons que les comptes publics tels qu'ils sont actuellement, il y a eu une dette de 900 milliards d'euros qui a été créée par la Macronie, la situation en matière de sécurité, la situation en matière d'immigration, les problématiques liées au pouvoir d'achat sur laquelle là aussi la Macronie n'a pas suffisamment agi. Nécessite que l'on change de politique. Nous avions finalement réclamé cette dissolution. Nous avions dit qu'à l'issue des résultats des européennes, les Français avaient démontré qu'ils voulaient une autre politique. Suite à cette dissolution, ils ont l'occasion de la mettre en place en se rendant aux urnes dimanche.
C'est via toutes ces raisons que vous expliquez cette hausse de la participation. On le rappelle, 67% donc sur cette circo en 2024. Contre 48,9% en 2022, c'est via tout ça, toutes ces explications, toutes ces raisons que vous expliquez cette grosse partie.
Oui, et puis je pense que l'Assemblée nationale a été relativement médiatisée ces deux dernières années. Les Français ont compris que quand il n'y avait pas de majorité, il y avait aussi énormément de débats, il y avait parfois des votes surprises, que le gouvernement ne faisait pas toujours ce qu'il voulait justement quand il n'avait pas de majorité. Et ils s'aperçoivent, on l'a vu, je vais reprendre par exemple l'exemple du texte sur l'immigration. La première version avait été rejetée à 4 voix. Vous voyez, je pense que les Français se sont aperçus que bah, un député, c'est important, notamment pour ses votes à l'Assemblée nationale. Je pense aussi que nous faisons de très bons scores dans les circonscriptions où nous sommes sortants, puisqu'on a aussi eu l'occasion de se faire connaître. Auparavant, les élus du Rassemblement national n'étaient pas forcément connus, puisqu'ils n'avaient pas forcément de mandat, les candidats du Rassemblement national. Maintenant, on a été député pendant 2 ans, on a rencontré énormément de personnes, que ce soit dans nos permanences, on a rencontré les élus locaux, on a rencontré des chefs d'entreprise, des responsables d'associations. Donc, il y a aussi des votes pour le Rassemblement national et pour les personnes qui les représentent, puisqu'il y a cette incarnation qu'il n'y avait pas auparavant.
C'est ce que vous expliquiez aussi la semaine dernière lors de la première émission du premier tour. Vous incarniez un peu ce rôle d'espace France Service au quotidien, j'ai envie
de dire. Effectivement. D'ailleurs, c'est un rôle qui m'a l'air d'être un peu méprisé par mon adversaire Frédéric Duché. Effectivement, dans nos permanences, que ce soit dans mon local au Genlis ou dans les permanences mobiles, parce qu'on en tient aussi à Étrépagny, à Vernon, dans la vallée de l'Andelle, nous recevons des personnes, des particuliers, mais aussi parfois des chefs d'entreprise ou des responsables d'associations qui ont des problématiques à régler, qui peuvent avoir des problématiques aussi avec la loi telle qu'elle est faite et nous suggérer des possibilités de modification. On a tout un tas aussi de personnes, notamment les habitants de la ruralité, qui viennent nous voir pour des problématiques de calcul de leur retraite, pour des problématiques de logement, pour des problématiques de demande de subvention. Et on a effectivement ce rôle un petit peu de service public, comme vous l'avez dit, ou de conseil juridique. C'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi aussi de prendre comme suppléant celui qui était jusqu'à présent mon assistant parlementaire local, Dylan Covin, puisqu'il a accompagné des centaines de personnes dans ce type de dossier. C'est un petit peu son travail au quotidien.
Vous, en tant que député sortant, en tête au premier tour donc, de ces élections législatives, comment est-ce que vous avez abordé, géré cette semaine d'entre-deux-tours? Comment est-ce que ça se passe, j'ai envie de dire?
Alors déjà, il y a toujours la première journée, je dirais, après le premier tour, où on est dans des obligations logistiques. Il faut qu'on redépose notre candidature en préfecture. Il faut dispatcher les documents qui viennent d'être imprimés auprès de nos différents responsables locaux. On perd un peu parfois cette première journée. Et puis derrière, on a 4 jours de campagne intensive. Là, on était ce matin, par exemple, sur le marché de Vernon. On va aller comme ça au contact des personnes et puis aussi distribuer des documents dans les boîtes aux lettres. On va essayer de convaincre un maximum de personnes. Il y a dans la circonscription environ 30% des gens qui n'ont voté ni pour moi, ni pour mon adversaire macroniste au premier tour. C'est avant tout à eux qu'on va s'adresser. Moi, je pense que, par exemple, chez les électeurs des Républicains qui ont choisi David Daverton au premier tour, nous partageons énormément d'idées en commun. Je pense que nous en partageons plus qu'ils n'en partagent avec la macronite Frédéric Duché. Et puis, pour les électeurs de gauche, quand on voit que Édouard Philippe, qui est le président d'Horizon, dont dépend Monsieur Duché, propose la retraite à 67 ans et qu'il était l'homme de l'essence à 2 euros, je pense que là aussi, nous avons un certain nombre de sujets sur lesquels certains électeurs de gauche peuvent davantage se retrouver dans notre candidature et dans le projet qu'incarne Jordan Bardella que vers la Macronie.
Vous en avez parlé justement, David Daverton, des Républicains, lui n'a pas donné de consigne de vote pour ces électeurs.
Non, je pense,
5,5% des
votants. Je pense qu'il a eu l'honnêteté de ne pas soutenir la Macronie. Je pense qu'il fait partie des gens et énormément de ses électeurs aussi qui veulent tourner la page de la Macronie. Ils ont eu un projet un petit peu différent d'une autre pour le premier tour de ces élections législatives. Et ça montre aussi que cette, j'ouvre les guillemets, ce front républicain qui est un peu dépassé, est maintenant très différent d'auparavant. On voit qu'un certain nombre de candidats soit appellent à voter pour nous, soit ne donnent pas de consigne de vote. Et puis on le voit aussi auprès des élus locaux. Auparavant, lorsque nous étions au second tour d'une élection, les maires des petites communes, tout un tas d'élus, créaient des collectifs pour dire que surtout, il fallait pas voter pour le Rassemblement National. Aujourd'hui, on ne voit quasiment plus ça, ou en tout cas, ce type de collectif, lorsqu'ils essaient d'être créés, ont relativement peu de succès auprès des élus qui dorénavant nous connaissent et puis qui, pour un certain nombre d'entre eux, on le voit nous quand on est en contact avec les conseillers municipaux de nos petites communes, votent aussi pour nous.
Comme abordé un peu plus tôt, on aurait dû avoir une triangulaire pour ce second tour. Finalement, le candidat du Nouveau Front Populaire, Pierre-Yves Jourdain, s'est désisté. Il a appelé ses électeurs à voter contre le Rassemblement National. Est-ce que, vous avez un peu répondu à la question, mais est-ce que cela change la donne selon vous, notamment sur Vernon où le Nouveau Front Populaire est ressorti en tête?
Alors c'est une décision qui nous a pas surpris puisque c'était ce qu'avaient dit les Verts dont il fait partie avant même le premier tour, que s'ils étaient troisième dans une triangulaire, il se désisterait. Et puis, on s'attendait à ce que M. Jourdain soit troisième dans une configuration de triangulaire. Moi, je pense que les voix des électeurs n'appartiennent pas aux candidats qu'ils ont choisis au premier tour. Je ne suis pas sûr que ça influence énormément les électeurs qui ont choisi de voter pour lui. Après, je pense qu'il y a une grande diversité de personnes chez les électeurs qui ont choisi de voter pour M. Jourdain. Je pense qu'un certain nombre ne partagent pas toutes les idées du Rassemblement National. Je ne suis pas sûr non plus qu'ils partagent les idées de la Macronie.
Intéressons-nous aussi sur tout le département de l'Eure, puisque les résultats, les bons résultats du Rassemblement National se sont traduits sur les 5 circonscriptions, puisque tous les candidats du parti sont ressortis en tête. Il y a 2 ans, vous gagniez 4 de ces 5 circonscriptions. L'objectif du 5 sur 5 que vous étiez fixé est toujours réalisable ?
Déjà, on note que les 4 sortants, c'est-à-dire que les 4 députés qui ont à la fois travaillé à l'Assemblée nationale et sur le terrain, sont largement sollicités par les électeurs. Tout le monde est aux alentours de 45%, voire parfois au-dessus, ce qui démontre que notre travail est quand même salué par les électeurs, ce qui nous fait plaisir et ce qui nous engage aussi pour l'avenir. Ensuite, il y a la 4e circonscription que nous n'avions pas gagnée effectivement la fois dernière, sur lequel nous arrivons là aussi en tête assez nettement. C'est un scrutin dans la 4e qui va probablement être assez serré, mais nous pensons à la fois que nous pouvons effectivement obtenir les 5 circonscriptions dans l'heure et puis obtenir une majorité à l'Assemblée nationale derrière Jordan Bardella.
C'est ce que j'allais dire. Au niveau national, du coup, le Rassemblement national est ressorti en tête, pas avec énormément de pourcentage d'avance, j'ai envie de dire, sur le nouveau Front populaire. L'objectif aussi derrière, c'est d'avoir cette majorité.
Nous, l'objectif, ça reste effectivement d'avoir cette majorité absolue. Elle nous semble tout à fait atteignable. Je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui n'iront pas voter pour la France insoumise, par exemple, face au Rassemblement national. Je pense qu'en fait, maintenant, il y a 3 pôles dans la politique française et qu'il y a finalement des ponts entre les 3 pôles. Moi, je pense qu'un certain nombre d'électeurs macronistes n'iront pas voter pour l'extrême gauche. Je pense que de nombreux électeurs de gauche n'iront pas revoter pour la Macronie, qui les a quand même tapé dessus à coup de 49-3 pendant 2 ans maintenant, et que nous pouvons finalement être un peu aussi la force de rassemblement, ce que nous essayons d'être, rassembler tous les Français au-delà de leur choix de premier tour, au-delà de leurs origines, au-delà de leur profession. Nous pensons que nous pouvons rassembler à la fois nos électeurs, à la fois des électeurs de la droite, mais aussi une partie des électeurs de la gauche, pour former une majorité de Français qui veulent du changement autour de différents thèmes qui sont relativement consensuels. Maîtriser les dépenses publiques, qu'il n'y ait pas d'augmentation de la dette, pas d'augmentation d'impôts, ce qui va nécessiter quelques économies. Par ailleurs, redonner du pouvoir d'achat en baissant un certain nombre de taxes, à la fois sur l'énergie, sur les produits de première nécessité, et puis maîtriser les questions d'insécurité et d'immigration, parce que je pense que y compris chez les électeurs de la France insoumise, au-delà de la caricature que peuvent parfois être leurs dirigeants, personne ne se satisfait de voir tous les faits divers sordides que nous voyons au quotidien dans notre pays et qui sont dus à l'impunité.
Et donc ça fait évidemment partie de votre programme. Il y a un des sujets aussi dont on a déjà parlé la semaine dernière, mais qui touche particulièrement cette circonscription à majorité rurale, les déserts médicaux. Vous, il y a toujours cette volonté de combattre ce problème.
Oui, tout à fait. Ça a été mon cheval de bataille durant la première partie du mandat, enfin durant le mandat qui a duré 2 ans. J'ai été président du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les déserts médicaux, qui réunit une centaine de députés de tous bords, dans le but à la fois d'auditionner des professionnels de santé, des personnes concernées par la problématique des déserts médicaux, et puis d'y apporter des solutions. On a déjà, je dirais, avancé dans cette première mandature. On a pu faire un certain nombre de propositions, notamment pour augmenter les bourses et les subventions que peuvent toucher les jeunes médecins qui s'engagent à venir s'installer dans les déserts médicaux. Moi, je pense personnellement qu'il faut aussi que ça soit les jeunes de nos secteurs géographiques, là où on est en désert médical, qui se tourne davantage vers des études de médecine, puisque quand on les interroge, en fait, les jeunes diplômés de médecine, en fait, ils ont tendance à aller s'installer là où ils ont leurs amis et leurs familles, c'est-à-dire là où dont ils sont originaires. Donc je pense que dans nos lycées, nous devons sensibiliser les bons élèves, mais aussi les parents, ce que les élèves puissent se tourner vers des études de médecine. On a parfois des familles qui n'ont pas l'habitude des études longues, qui ne savent pas comment ça va se passer, qui vont se dire, pendant plusieurs années, mon enfant va rester étudiant, il n'aura pas forcément de revenus importants, comment va-t-on faire ? Qu'on puisse les accompagner, qu'on puisse un peu casser ce tabou dans le but de faire former des jeunes de nos secteurs qui deviennent les médecins de demain et qui s'installent sur ces secteurs géographiques.
Pour conclure, très rapidement, un petit point aussi sur ce qui concerne directement la circonscription, c'est autour des agriculteurs. Vous avez toujours cette volonté de développer les circuits courts et de lutter contre cette concurrence déloyale.
Oui, développer les circuits courts, aussi mettre fin à un certain nombre de surtranspositions de règles européennes, c'est-à-dire que souvent les lois françaises vont plus loin que les normes européennes, ce qui met nos agriculteurs en difficulté, notamment vis-à-vis de l'agriculture de l'autre bout du monde. Je pense par exemple au sucre du Brésil, mais aussi face aux agriculteurs d'autres pays de l'Union européenne. Or, ces règles-là, ce sont des règles nationales, et aujourd'hui, avec un Sénat qui est LR et demain avec une Assemblée nationale qui pourrait être Rassemblement national, il y aurait un large consensus pour supprimer un certain nombre de ces surtranspositions et aider davantage nos agriculteurs à être compétitifs. Ce qui veut dire aussi aider notre industrie agroalimentaire, ça veut dire aussi de la création d'emplois, de richesses sur le territoire.
Timothée Houssin, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de votre invitation.
Cette émission sera rediffusée à 13h et 18h30. Vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Rubrique podcast, puis élections législatives 2024. Dès lundi matin, vous retrouverez les résultats de ce second tour des élections législatives dans votre journal local avec les réactions des candidats. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.
BPM, élections législatives 2024.